suis déjà rendu à la dernière journée des pains sans levain. La semaine a passé en coup de vent, comme un éclair. Plusieurs m'ont fait cette remarque-là. Si vous voulez vous reporter, s'il vous plaît, à Ésaïe, chapitre 56. Je me suis rendu compte en parlant avec certains d'entre vous aujourd'hui que ça a été le même phénomène pour vous autres que ça a été pour nous cette semaine. C'est comme si Dieu nous avait donné de prendre conscience davantage de son plan, de ce que nous avons à faire individuellement, puis sur qui compter. Parce que ça fait toute la différence. Quand on voit une tâche à faire qui est énorme, qui est considérable, mais qu'on est seul pour la faire avec les petits moyens qu'on a, en tant qu'être humain, les moyens sont plus que limités, ça peut être décourageant. Parce que notre but, c'est le royaume, notre but, c'est la vie éternelle, et c'est tout un autre niveau d'existence. C'est quelque chose d'inaccessible aux êtres humains. Et la victoire sur nos faiblesses, la victoire totale, c'est inaccessible aux êtres humains aussi. Paul disait que c'est impossible aux êtres humains d'arriver au salut, mais qu'à Dieu, tout est possible. Alors, on a comme réalisé ça encore davantage cette semaine, alors qu'on vivait vraiment intensément l'esprit de la fête des pains sans levain, où on peut compter sur notre Créateur, notre Sauveur, pour nous amener jusqu'au royaume si nous faisons notre part pour être fidèles. Si on travaille avec son aide, si on demande son aide, il va nous donner des petites victoires au fur et à mesure qu'on va avancer vers la victoire finale, vers notre entrée dans la famille divine, vers notre naissance en tant qu'être spirituel. Et c'est ce que le Christ a expliqué à Nicodème quand il était allé le voir, qu'il fallait naître de nouveau. Le Christ expliquait à ce moment-là en quoi consiste le salut. Et je ne sais pas si ça a été la même chose pour la plupart ou pour vous tous, mais cette semaine, on dirait que Dieu nous a permis de vivre des expériences plus particulières encore pour apprendre des choses. Parce que Dieu nous enseigne au cours de l'année, tout le temps, parce que chacune de nos actions, il les considère, il nous regarde aller. Parfois, il va permettre un obstacle, parfois, il va lever un obstacle, parfois, il va nous mettre dans une situation où on doit absolument le supplier, puis le supplier longtemps d'intervenir, et ainsi de suite. Et on vit toutes sortes d'expériences, parfois des expériences extrêmement heureuse et positive, des bénédictions, des réponses à des prières. Qu'est-ce que Dieu fait dans la vie d'un autre membre de l'Église ou de l'Église elle-même dans la responsabilité qu'on a? Mais on a vécu toutes sortes de choses comme ça cette semaine. Et je pense que plus on va approcher le retour de Christ, plus ceux qui ont à cœur de faire sa volonté vraiment et de vivre dans l'esprit des pains sans levain, plus on va voir la présence de Dieu dans nos vies, si on est attentif. Parce que parfois, sa présence se manifeste dans des choses éclatantes, mais parfois, sa présence se manifeste dans des toutes petites choses de chaque jour. Et si on a le cœur ouvert pour marcher avec le Christ, et si on est attentif à ces choses-là, c'est plein d'encouragements qui viennent à ce moment-là. On sent sa présence et on sent qu'on marche avec lui, mais qu'il est à côté de nous. Il est tout proche. Il est tout proche de nous autres. Et c'est intéressant parce que les commentaires que j'ai eus concernant cette semaine, de la part des membres, puis même aujourd'hui, c'est que ce qu'on a vécu cette semaine dans l'esprit de la fête des pains sans levain, c'est comme si ça avait été plus profond encore que les autres années. Comme si on avait eu encore davantage de compréhension ou d'encouragement qui nous viennent, même dans les épreuves. Je dis même dans les épreuves parce que au moment de la Pâque et de la fête des pains sans levain, il y a souvent des obstacles qui sont mis sur notre route par l'adversaire, des choses qui arrivent, qui ont tendance à nous décourager ou qui nous bloquent la route, des écueils, des problèmes, des difficultés. Et particulièrement autour des fêtes, parfois, ça se produit parce que l'adversaire n'est pas content. Et ceux qui l'attaquent, c'est ceux qui ne lui appartiennent pas, qui sont en train de fuir totalement. Alors, c'est là qu'il met la pression de toutes sortes de façons. Mais Dieu nous encourage parce qu'il nous donne la vision. Sa vision des choses et ses promesses d'aide. On va regarder maintenant Ésaïe 56. On va commencer à lire au verset 1. Si vous lisez tout le chapitre ici, vous allez voir que ça s'applique dans le contexte du temps de la fin, où nous sommes rendus, nous. Ça a été écrit pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, juste avant le retour de Jésus-Christ. Verset 1, « Ainsi parle l'Éternel. » Et après, il nous donne, dans le fond, en d'autres termes, notre responsabilité de la fête des pains sans levain. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. C'est ce sur quoi on a centré notre attention cette semaine dans nos études, dans nos prières, même dans le jeûne à l'occasion, certains ont fait, c'est bien. Car mon salut ne tardera pas à venir. Autrement dit, c'est proche. Et le salut, c'est le retour du Christ, le moment où la vie éternelle sera accordée aux fidèles serviteurs de Dieu qui ont reçu son esprit. Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Verset 2. Heureux l'homme qui fait cela et le fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, en veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. On voit encore ici que le serviteur et la servante de Dieu font attention à ce qu'ils pensent. Ils choisissent leurs pensées et après les actions sont en conséquence avec l'aide de Dieu. Puis ici, on pourrait faire plusieurs sermons juste sur ce verset-là. Parce que si vous remarquez, à l'intérieur de ce que Dieu dit ici, que le Christ est proche, qui s'en vient, que nous, on doit penser à la justice de Dieu et en vivre, puis il dit que c'est notre bonheur pour maintenant puis dans le monde à venir, il dit « Heureux celui qui fait ça puis qui garde le sabbat ». Pourquoi est-ce qu'il arrive avec le sabbat comme ça au milieu de cette phrase-là? Parce que le sabbat, c'est, dans le fond, la base majeure de tout. Si vous croyez au vrai Dieu, vous croyez aux lois qu'il a données, et le principal signe qu'il a donné en ce qui concerne Israël ancien, qui identifie encore son peuple. Maintenant, bien sûr, il y a l'amour les uns pour les autres. Mais fondamentalement, dans les 10 commandements, c'est l'observance du sabbat. Pourquoi? Parce que quand on croit ce que Dieu dit, on dit « Dieu a mis une journée à part où on doit ne pas travailler », c'est qu'on le reconnaît comme notre Créateur, comme notre souverain, comme celui qui nous donne les lois et qu'on veut les mettre en pratique. C'est le début. Et le sabbat représente quoi? Ça représente le millénaire de paix une fois que le Christ va être revenu, le moment où toutes les nations vont avoir la chance d'être appelées et connaître les mêmes choses que vous et moi connaissons maintenant. Voyez-vous pourquoi il met le sabbat là-dedans? Parce que c'est l'ancrage. L'ancrage. Si je suis prêt à observer le sabbat, même au risque parfois de perdre des choses, certains ont dû quitter leur emploi, ont été remerciés de leur service, parce qu'ils observaient fidèlement le sabbat. Et Dieu les a bénis par la suite et les a encouragés. Mais c'est là qu'on doit prouver à Dieu, d'une façon manifeste et parfois coûteuse, dans certains cas, qu'on veut lui appartenir à tout prix. Ça, Dieu aime ça. Parce que plusieurs fois dans la Bible, vous voyez que c'est écrit que Dieu aime celui qui le sert de tout son cœur. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, comment? De tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Alors, quand on est prêt à faire ça pour le sabbat, et parfois on doit, et je l'ai fait dans le passé, on doit changer toute notre vie à cause de l'observance du sabbat. Parfois, on perd des amis à cause de l'observance du sabbat, parce qu'ils trouvent bizarre la religion qu'on fait et ainsi de suite, ou qu'on ne peut plus faire les mêmes activités ce jour-là avec eux, ou ainsi de suite. Alors, il y a des changements majeurs dans nos vies à partir même juste de là, sans parler des autres changements qu'on doit faire par la suite. Alors, voyez-vous pourquoi Dieu met le sabbat au cœur de ça? Il met comme le fondement de notre changement de vie, de notre vie, le fait de vivre selon les pains sans levain. Alors, ça, c'est notre base. Si je suis prêt à faire ça pour Dieu, je suis enthousiasmé à faire le reste aussi. Parce qu'en sachant le sabbat, en sachant ce que Dieu a fait pour ceux qui ont observé le sabbat dans le passé et maintenant encore, c'est un grand encouragement pour moi à continuer. Alors, c'est ici, en même temps, je reviens à ça, Ésaïe 56, versets 1 et 2, c'est encore les pains sans levain. Et aujourd'hui, on va voir une façon de nous assurer d'atteindre le but. Ça, ça fait du bien quand on peut voir qu'on peut l'atteindre, ce but-là, d'entrer dans la vie éternelle, d'aller dans le royaume de Dieu. Si on peut avoir cette assurance-là, puis à plusieurs endroits, la Bible dit qu'on peut avoir cette assurance-là. Et une partie majeure pour avoir cette assurance-là, c'est le fait, une fois qu'on a été appelé, qu'on a l'aide du Saint-Esprit, c'est le fait de demeurer ferme dans ce que nous savons, dans la foi qui a été livrée au Saint une fois pour toutes. Et il faut être conscient qu'il nous faut rester ferme. C'est comme quelqu'un qui veut atteindre un but, par exemple, avec ses études, dans ses études, qui veut devenir un professionnel dans telle matière ou travailler dans un métier, dans tel secteur d'activité. La personne choisit ça parce qu'elle aime ça et elle veut y arriver. Et qu'est-ce qui se passe en réalité si vous analysez son cheminement et ses efforts? c'est qu'elle est tellement enthousiasmée par le but qu'elle est ferme, elle est déterminée dans ses actions pour atteindre ce but-là, au prix souvent de grands sacrifices pendant des années pour y arriver, en termes d'années de préparation pour arriver à être capable d'exercer le métier ou la profession qu'on a choisi. Nous, Dieu nous convie à la chose la plus grandiose qui ne peut pas exister dans la vie humaine ou pour un être humain, limité et mortel, c'est d'avoir accès à la vie éternelle dans des conditions extraordinaires, puis étant devenu parfait, c'est-à-dire capable de ne plus jamais pécher, capable de prendre les bonnes décisions, d'être capable de vraiment servir, d'aider, de vivre en harmonie avec tous. Ça, c'est notre grand but. On n'est pas encore là, mais c'est notre grand but. Alors, comprenez-vous pourquoi juste ça, c'est motivant, en plus des promesses que Dieu nous fait, de nous donner toute l'aide nécessaire pour nous rendre à terme. Et Dieu va tout faire pour nous amener au but. Si nous restons fidèles, si de notre côté, on détermine d'être ferme. Ça, je vous dis, il faut être conscient de l'importance de cette décision-là d'être ferme, puis après, s'appliquer à en vivre chaque jour, là, quand il y a de l'opposition, quand il y a des situations adverses, puis tout ça, pour prendre les bonnes décisions et faire ce qu'il nous faut. Alors, le titre du sermon aujourd'hui, « La fermeté qui mène à la victoire ». La fermeté qui mène à la victoire. Être ferme, si on prend des synonymes pour bien comprendre ce que ça veut dire, être ferme, c'est être déterminé. C'est ça, être ferme. Déterminé. Je vais aller finir mes études. Je vais atteindre mon but. Je vais terminer la route que Dieu m'a donnée pour arriver à son royaume. Être ferme, ça veut dire aussi être fidèle. C'est-à-dire que j'ai pris l'engagement au baptême de marcher dans les voies de Christ, de ne pas regarder en arrière, d'aller vers l'avant, quel que soit le prix à payer, pour être là debout au retour de Christ, pour être là membre de la famille royale, pour servir éternellement et accomplir la volonté de Dieu à jamais, vivre d'une vie extraordinaire à ce moment-là. Ferme, c'est être fort. Humainement, on n'a pas beaucoup de force, mais on peut compter sur quelqu'un qui est le plus fort, parce que mon grand frère, c'est le plus fort. Parce qu'il a vaincu les pires adversaires qui peuvent exister. Il a vaincu Satan lui-même, il a vaincu le monde, il a vaincu la nature humaine. Et c'est le même qui dit « Je vis en vous ». C'est le Christ qui vit en nous, lorsque on reçoit le Saint-Esprit de Dieu. Être ferme, c'est en même temps être résistant. Ben oui! Si j'ai décidé d'atteindre telle profession ou tel métier et que je suis fidèle pour suivre la route qui mène là, que je me renforce de toutes les façons possibles en équilibrant ma vie, en respectant mes priorités, en allant chercher toute l'aide nécessaire, à ce moment-là, je vais être solide pour maintenir les choses. Je vais être résistant pour garder le cap sur la direction que j'ai prise et sur le but qui m'est cher. Et s'il y a des choses qui viennent à l'encontre de ça, je vais résister. Je vais être résistant. Je vais être ferme. Comprenez-vous? Mais ça, il faut que ça soit déjà clair dans notre tête avant de partir. Et c'est bon que, quand vient la fête des pains sans levain, qu'on réalise cet aspect-là de notre cheminement. Autant c'est important de réaliser, comme on l'a vu le premier jour de la fête des pains sans levain, que tout commence dans notre pensée et qu'on a besoin de le savoir, qu'on a besoin de demander l'aide dès le moment que les pensées mauvaises nous viennent, pour les éliminer à ce moment-là, que c'est beaucoup plus facile à partir de la source de l'action mauvaise. C'est moins difficile de livrer le combat-là qu'une fois en cours de route. C'est un peu la même chose en termes de fermeté. Si je réalise l'importance de la fermeté, bon, ben, je sais ce que c'est. Et s'il m'arrive des options autres que celles-là, qui pourraient sembler attirantes, ou s'il m'arrive de la résistance ou de l'opposition ou même des tribulations, je vais être ferme parce que j'ai décidé d'être ferme. Comprenez-vous? Et quand ça arrive, là, je peux crier à Dieu et dire, « Aide-moi à être ferme, c'est là que j'ai besoin, là, parce que je suis en danger. » Voyez-vous, je comprends, autrement dit, si vous me permettez, la mécanique de la fermeté, et j'utilise les armes que Dieu me donne. Le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, les armes qu'on voit dans Éphésiens 6. Mais je sais comment les utiliser pour demeurer ferme, pour contrôler mes pensées, puis ensuite, bien sûr, mes actions. Allez à Genèse chapitre 18, s'il vous plaît. C'est intéressant parce que dans le psaume 57, David dit une toute petite phrase qui s'applique exactement au sermon que je vous donne aujourd'hui. Et on sait que David, comme Dieu dit, c'est un homme selon son cœur. Alors, moi, des fois, je demande à Dieu, donne-moi de devenir comme David, un homme selon ton cœur. Je sais que je suis loin de ça, mais aide-moi à devenir comme ça, parce que je sais que ça te plaît. Tu le dis à propos de David. J'aimerais ça que tu puisses le dire un jour à propos de moi. Alors, voyez-vous, ça fait partie de notre démarche avec Dieu, de lui demander, là. Mais David, dans le psaume 57, il dit à Dieu, « Mon cœur est affermi, ô Dieu. Mon cœur est affermi. » Autrement dit, David dit à Dieu, « Écoute, Père, j'ai décidé, j'ai choisi d'être ferme. » Et ça, ça s'appliquait par rapport aux principes de vie que David connaissait, les lois de Dieu, marcher dans les voies de Dieu. J'ai décidé d'être ferme pour marcher dans tes voies. Puis ça s'applique aussi à l'idéal que David avait, parce que David attendait le royaume aussi. Il était serviteur de Dieu, vraiment spécial, et c'est lui qui va régner à sa résurrection sur les 12 tribus d'Israël et ainsi de suite. Il y a eu et il y aura un rôle extraordinaire à jouer dans le plan de Dieu. Et c'est le même petit David qui dit à Dieu, « Dieu, j'ai décidé d'être ferme. » C'est sûr que si on arrête là, il ne va pas plus loin parce que c'est un être humain. J'ai décidé d'être ferme. Autrement dit, j'ai choisi d'être ferme. Parce que Dieu respecte la liberté de choix qu'il a donnée à chacun des êtres humains. À nous de choisir. Hein, on voit ça à différents endroits dans la Bible. Dieu dit, « J'ai mis devant toi la vie, la mort, le bien, le mal. » Choisis le bien afin que tu vives, toi et les tiens. Alors, en tant qu'être humain, il nous a donné la possibilité de choisir et on doit utiliser cette possibilité de choisir-là pour dire à Dieu, Père, j'ai choisi, puis je choisis de tout mon cœur là, de vivre selon tes voies. Aide-moi à le faire maintenant parce que tout seul, je ne peux pas. David n'a pas pu le faire seul non plus. David a dû avoir l'aide de Dieu. Mais une fois qu'on a notre idéal de fixer le royaume, servir éternellement, devenir des créatures nouvelles, agréables à Dieu, par le sang du Christ, par sa présence en nous, bien là, on est motivé, puis on sait où aller chercher la force, puis on sait à qui exprimer notre reconnaissance. Et le succès vient seulement par l'aide de Dieu, mais nous, on doit, au point de départ, comme je l'explique, choisir, décider, et aussi, bien sûr, faire notre part. Maintenant, comment nous affermir? Comment être ferme? Je vous ai montré un petit peu comment ça fonctionne, le fait d'être ferme. Je vais vous donner maintenant, puis j'ai eu beaucoup de plaisir à les trouver, quelques moyens assurés pour être ferme, pour avoir d'assurance devant Dieu et avoir la joie d'avancer, là, de progresser réellement. Mais d'abord, reportez-vous à Genèse 18, comme je mentionnais. Je vais vous décrire un événement qui est survenu il y a très longtemps, au moment de la fête des pains sans levain. Au moment de la fête des pains sans levain, et c'est l'histoire de Lot, c'est l'histoire de son épouse, et c'est l'histoire de ses deux filles. Bien sûr, ses gendres aussi, mais ses gendres n'ont pas suivi. Lorsque Dieu a dit à Lot, « Je vais détruire Sodome et Gomorre », Lot habitait là, « Partez d'ici, c'est le temps pour sauver votre vie ». Quand Lot est allé vers ses filles et ses gendres pour leur dire ça, ses gendres pensaient qu'ils faisaient des blagues. Alors, ils n'ont pas réagi favorablement. Les filles ont suivi leur père. Et la maman a suivi aussi. Bon, maintenant, on voit ce qui arrive à ce moment-là. On sait qu'à cette époque, la terre était vraiment remplie de toute la méchanceté possible, et cette région-là en particulier, un peu comme c'était juste avant le déluge. Et là, Dieu décide que ces deux villes-là, il va les éliminer complètement. Pas parce qu'il déteste les gens, mais pour pas que les gens aillent au-delà d'une certaine limite où ils ne pourraient plus peut-être se convertir après. Dieu, bien sûr, voit beaucoup plus loin, lui. Et même si les gens de Sodome et Gomorre ont été éliminés à ce moment-là, ont perdu la vie, Dieu, dans son grand plan, lui, il sait qu'à la fin du mille ans, tous ces gens-là vont revenir à la vie. C'est pour ça que le Christ a dit à un moment donné à certains individus, dans un contexte particulier, les gens de Sodome et Gomorre vont être traités moins sévèrement que vous autres, parce que vous autres, vous êtes témoins du Christ, vous êtes avec lui. Il parlait aux Juifs à ce moment-là, je pense aux pharisiens. Donc, les gens de Sodome et Gomorre vont revenir. Alors, Dieu, lui, voit la fin de l'histoire. Dieu est un Dieu d'amour. Il va leur donner leur chance de changer, de se repentir. Mais à ce moment-là, c'était la méchanceté répandue au plus haut point. C'est horrible quand on voit la description qu'il y a dans la Bible-là, puis ça ne dit pas tout. OK? Alors, Genèse 18, verset 20. Genèse 18 et le verset 20. Et l'Éternel dit, « Le cri de Sodome et de Gomorre s'est accru, et leur péché est énorme. » Énormément de violence, d'homosexualité, de tout ce que vous voulez, de méchanceté, de toutes sortes, de meurtres. Et regardez la société autour, on pourrait presque faire un copier-coller de ce qu'on voit autour dans la société. Même quelqu'un me mentionnait tantôt avant l'Assemblée qu'à son milieu de travail, il trouvait ça pénible parce que la plupart des hommes avec qui il travaille ne parlent simplement que d'adultère et de sexualité perverse. Et la prochaine fois qu'ils pourront goûter ces choses-là, comme selon leur dire et ainsi de suite. Et étaient surpris que cette personne-là qui est dans l'Église ne participe pas avec eux à ces conversations-là qui les amènent dans ce soi-disant plaisir. Mais la personne a bien répondu dans ce sens-là en mentionnant qu'elle était fidèle. Elle est fidèle à son conjoint et qu'elle en bénéficie les fruits et que lorsqu'il s'assoit avec les enfants à table, il n'y a pas de malheur entre eux parce qu'il y a eu des divisions, des querelles, des deuxième et troisième et quatrième conjoints et ainsi de suite, ou d'autres conséquences ou des maladies qui s'ensuivent et tout ça. Alors ça, c'est la société qui est autour de nous aujourd'hui, mais ça ressemble étrangement à celle-là, mais on est proche de la fin aussi. C'est pour ça que Dieu est allé détruire Sodome et Gomorre. Alors Genèse 19, maintenant verset 1. Alors Dieu décide de détruire la ville, mais il envoie deux anges à Sodome et Gomorre, ils vont procéder, mais ces anges-là ont la mission de la part de Dieu de dire à Lot et sa famille, sortez parce que je vais détruire la ville. Parce que Lot appartenait à Dieu, c'était un serviteur de Dieu. On voit d'ailleurs un certain passage où il s'est dit que Lot tourmentait tous les jours son âme à cause de ce qui se passait autour. Ça veut dire que lui aussi, comme vous qui travaillez dans des milieux de travail difficiles, lui aussi voyait tout le mal affreux autour, ne voulait pas y participer, mais en souffrait et demandait à Dieu que ça cesse. Comme nous, on doit demander chaque jour à Dieu, « Père, délivre l'humanité de toutes les horreurs qui se commettent, de toutes les cruautés, de tout l'esclavage qui est mis sur les hommes, de toute la méchanceté que les hommes se font les uns aux autres, et ainsi de suite. Délivre ce monde-là, envoie le Christ. Fais que le rétablissement de toutes choses ait lieu le plus tôt possible. C'est notre responsabilité, en plus, bien sûr, d'avertir le monde de ce qui s'en vient et de nous préparer. » Alors, je reviens à l'histoire de Lot. Les deux anges s'en vont à Sodome. Genèse 19, verset 1. « Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. » Bon. Verset 3. « Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui. » Les anges ne voulaient pas entrer dans la maison le soir, mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui. Ils entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin. Bien sûr, les anges avaient pris forme humaine, alors ils ont pu manger avec Lot. Il leur donna un festin et regardez. Il fit cuire des pains sans levain. Quelle époque de l'année vous pensez que c'était? Au pain sans levain. Et ils mangèrent. Okay? Dieu a un souci spécial de ceux et celles qui ont à cœur de vouloir vaincre et de vouloir lui appartenir. Dieu a un souci spécial de ceux-là et celles-là au moment de la fête des pains sans levain, au moment de la Pâque. Et là, Dieu avait envoyé des anges pour délivrer Lot et toute sa famille, parce que Dieu est un Dieu de famille. Ils ont eu le choix. Ils n'ont pas tout suivi, mais ils ont eu le choix. OK? Alors, verset 3, bon, Lot les pressa tellement. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Une fois les anges entrés dans la maison, vous pourrez lire, les gens de la ville viennent, et viennent violemment, ils veulent défoncer la porte, parce qu'ils veulent avoir des relations sexuelles avec les deux hommes, entre guillemets, qui sont entrés. Ça vous donne une idée de l'état de la situation. OK? Et ils veulent faire violence. Qu'est-ce qui se passe? Verset 12. Les hommes, c'est-à-dire les anges, dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres, « qui avait pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Le beau-père fait des blagues. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Prends ta femme et tes filles qui se trouvent ici de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, Lot tardait encore, malgré tout ça, il voulait partir, mais il tardait encore. Il y a une leçon pour nous là-dedans. On sait ce qui s'en vient. On sait que c'est beaucoup plus proche que c'était. On voit l'écriture sur le mur, parce qu'on voit les événements sur la scène mondiale se précipiter, s'accélérer comme on n'a jamais vu. Et on n'a jamais vu un aussi grand nombre d'événements différents s'accélérer en même temps. On voit les économies s'effondrer. On voit apparaître le spectre de la famine. On voit apparaître l'augmentation des guerres, la production d'armement, la préparation pour les grandes choses qui s'en viennent. Nous savons. Et parfois, certains et certaines d'entre nous tardent à partir, ou tardent à changer, ou tardent à déterminer de changer et d'être ferme, en se disant peut-être, bon, ça fait longtemps que c'est annoncé, j'ai encore du temps, je me dépêcherai un peu plus tard. Là, j'arrêterai de faire telle chose qui est contraire à la loi de Dieu quand ça sera proche le temps. Le train passe une fois. Quand il sera passé, il sera passé. Et comme il tardait, comme Lot tardait, dans ce cas-là, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. C'est intéressant de voir le scénario en détail comme ça, de voir ce qui s'est passé, les réactions, parce qu'on est des êtres humains aussi, et il y a des leçons pour nous là-dedans également. Maintenant, l'épouse de Lot a suivi, vous savez un peu ce qui est arrivé dans son cas. Regardons ce qui est arrivé au verset 23. Verset 23 à 26. « Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar, la petite ville où il lui avait été permis de se réfugier. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre, du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine, et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. » Verset 26. Pendant ce temps-là, avant que ça arrive, c'est-à-dire, Lot et ses filles et sa femme se hâtaient pour s'en aller vers la petite ville, mais la femme, elle, alors qu'il avait été bien dit de ne pas regarder en arrière, la femme de Lot regarda en arrière et devint une statue de sel. Elle a pensé que, malgré la directive de Dieu, de toute évidence, elle a pensé qu'un petit regard ne ferait pas une grosse différence. Sauf que c'était transgresser la loi qui avait été donnée. Dieu n'entend pas à rire là-dessus. C'est sûr qu'on n'est pas parfait et qu'on ne réussit pas parfait à observer les lois. Ça se fait en cours de route. Mais lorsqu'on se détourne, ici, il y a plus que de juste jeter un coup d'œil en arrière par curiosité. Il y a probablement une espèce de regret par rapport à certaines choses qui pouvaient être intéressantes à Sodome. Rappelez-vous que la société de Satan, c'est toujours un mélange de bien et de mal. Comme les films, par exemple. À peu près dans 99,999% des cas, ou comme les émissions de télévision ou tout ça, les téléromans et tout ça, il peut y avoir un peu de bon ici et là, mais il y a beaucoup de mal. Ou il peut y avoir beaucoup de bon, ce qui semble bon, mais le mal et le poison est là. Quand même, c'est la même chose. Et Dieu dit, ne touchez rien d'impur. À un moment donné, il faut réaliser qu'il faut sortir de là. Que ce n'est plus notre monde. Que ce n'est plus notre tasse de thé, comme certains diraient. Qu'on n'a plus d'affaires là. Que c'est le temps de partir. Et qu'on n'a pas à regretter les bonnes choses qu'il aurait pu avoir. Écoutez, tout ce que vous voyez autour, tout ce qu'on a maintenant, que ce soit vos maisons, vos autos, vos biens, vos possessions, puis tout ça, ça n'existera plus bientôt. Pensez-y. Quelle importance ça a? Pour le moment, ça peut être utile d'avoir une voiture. C'est heureux si on a un toit. Bravo, on dit merci à Dieu. Mais il ne faut pas que mes regards soient tournés vers là. Je peux travailler pour bâtir ma vie. Si je suis célibataire, pour avoir un conjoint, pour avoir une vie agréable et heureuse, et ainsi de suite, ça c'est bien. Mais la leçon ici, une des leçons, c'est de ne pas regarder vers cette société pour les choses qu'on a pu aimer et qui étaient mauvaises ou qui étaient demi-bonnes et demi-mauvaises. Mais de se mettre vraiment dans l'esprit, de déterminer, d'être ferme là-dedans, de dire « Tout ce que j'ai, ça va partir un jour. Il faut que je parte de cœur maintenant. Je vais goûter les choses bonnes que je peux goûter, l'apprécier, partager avec les autres, soutenir l'œuvre. Mais il faut que je me mette déjà dans la tête, dans l'esprit, qu'un jour, tout ça, je ne l'aurai plus et je serai content de ne plus l'avoir. Parce que je m'en vais vers quelque chose de tellement plus grand. Qu'est-ce que ça a donné au gendre de Lot de rester là? Tout a été rasé, y compris leur vie. Ça a été quoi, là? La jouissance du mal pour un peu de temps? Quelques heures, dans leur cas. Ça a été quelques heures, parce que ça s'en venait quelques heures après. Ce qui leur semblait si important, si agréable, si intéressant, ils n'en ont pas joui bien, bien longtemps. L'histoire s'est terminée tout de suite après. Alors, voyez-vous, les leçons qui se dégagent de ça, quand on prend le temps de regarder le scénario en détail, les réactions qui ont pu se passer, tout ça, on apprend énormément de choses, puis nous, ça nous fortifie. Ça nous montre que, oui, dans les choses bonnes qu'on peut faire, qu'on peut avoir, goûtons-y, remercions Dieu, mais ne les prenons pas pour acquis, ne les laissons pas être nos dieux, et ne permettons pas que ça nous dérange dans nos priorités d'étude de la parole de Dieu de tous les jours, de jeûner régulièrement, de prier tous les jours, et de vivre chaque jour, de plus en plus, sans levain avec l'aide de Dieu, pour être prêt, lorsque ça va arriver, qu'on soit prêt. Il y a une lutte intérieure qui se poursuit. Regarder en arrière ou rester trop attaché aux choses qui vont de toute façon disparaître ou regretter des choses qu'on a pu aimer dans cette société-là ou dans notre vie ancienne, c'est retourner un peu à nos anciens péchés dans certains cas. Et il ne faut pas garder ces choses-là dans notre esprit. Il faut s'en débarrasser. Dieu dit, purifiez-vous. Regarder en arrière dans ce sens-là, ça veut dire, dans notre cheminement spirituel, ça veut dire ralentir. Ça veut dire s'arrêter. Ça veut dire figer sur place. Et après, les autres sont rendus plus loin. 1 Corinthiens, s'il vous plaît. 1 Corinthiens. On va aller au chapitre 16. Pardon. 1 Corinthiens, chapitre 16. Le premier moyen pour être ferme, je ne vous surprendrai pas, mais on a besoin de se le rappeler, puis surtout de le pratiquer. Le premier moyen de demeurer ferme, c'est de demander à Dieu, chaque jour, de demander à Dieu d'être avec nous, de nous donner de faire sa volonté. Ça veut dire de le chercher de tout notre cœur, puis de rester proche de lui par les moyens que je viens de vous mentionner. Un autre moyen, c'est les efforts constants qu'on doit faire pour rester alerte, pour rester vigilant, pour rester éveillé. Le Christ a bien dit, hein? Veillez et priez, car vous ne savez pas à quel moment ça va arriver. Veillez et priez pour être jugé digne d'échapper aux choses qui viennent sur le monde. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit. Et ce temps-là approche. Et l'autre moyen de rester ferme, c'est justement de faire des efforts constant pour rester actif, pour rester éveillé, vigilant. 1 Corinthiens 16, verset 13. Regardez ce que Paul dit aux Corinthiens. Veillez, surveillez les événements mondiaux. Voyez où on est rendu. Veillez sur vous-même, sur vos voies, pour vivre selon les voies de Dieu. Veillez, demeurez ferme. Voyez-vous, cette question de fermeté. Plus on veille, plus on regarde ce qui se passe, plus on voit où on est rendu dans le temps, plus on voit ce que Dieu nous demande de faire, puis on devient ferme. Pourquoi? Ça devient notre vie. C'est la nouvelle nature qu'on met sur nous qui remplace la nature humaine. C'est la nature de Christ. C'est de développer sa stature. Je veille à devenir comme le Christ. Je vais être prêt quand ça va arriver. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes. Fortifiez-vous. Que tout ce qui se fasse par amour et ainsi de suite. Alors, il faut veiller. C'est seulement par le Christ, encore là. On peut demander au Christ, aide-moi à savoir comment veiller. Comment le faire? Souvent, il y a des questions qu'on se pose comme ça, puis on oublie tout simplement de demander à Dieu de nous montrer. Si vous lui demandez, parce que ça vise à faire sa volonté, soyez pas surpris d'une chose. Il va vous répondre. Il va vous répondre parce que Dieu répond toujours à celui qu'il cherche et à celui qui lui demande pour faire sa volonté. 1 Corinthiens 15, verset 57, juste un peu avant. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. Voyez-vous où elle vient, d'où elle vient la victoire? Par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Voyez-vous, on a à être conscient de notre rôle, de qui nous sommes, les appelés de Dieu, les rachetés de Dieu. Et si on travaille journellement à ça, on développe, c'est-à-dire non, pas on, le Christ développe en nous sa nature à ce moment-là. Voyez-vous comment on est, mes êtres humains? On pense toujours en fonction de nous autres en premier. Non, c'est pas ça. Il faut que j'apprenne à changer aussi. C'est que le Christ développe en nous sa nature et il habite en nous de plus en plus. On devient à ce moment-là plus ferme, inébranlable, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Ce n'est pas en vain que vous faites ça, les efforts que vous déployez. Et Dieu les voit, et Dieu les apprécie. Et c'est mis à votre compte, pour ainsi dire. Philippiens chapitre 3, on n'est pas tellement loin, allons dans Philippiens, le troisième chapitre. Philippiens chapitre 3. Un autre moyen pour être ferme, c'est de ramener à notre esprit souvent qui on est et sur qui on peut compter. Où seriez-vous si Dieu ne vous avait pas appelé? Où est-ce que vous seriez aujourd'hui? Seriez-vous encore même vivant? Dans quel état est-ce que vous seriez? Est-ce que vous seriez encouragé comme vous l'êtes? Est-ce que vous auriez l'espoir que vous avez? Non, hein? Alors, c'est bon de se rappeler de temps en temps, de faire l'effort. Il dit « travailler à votre salut ». Il y a des efforts à faire. De faire l'effort de se rappeler qui nous sommes. On est des rachetés au prix de notre Créateur. Il nous a dit « je vais vous emmener à terme, si vous êtes fidèles, si vous êtes fermes, je vais vous raffermir jusqu'à la victoire totale ». Alors, il faut se rappeler qui nous sommes et sur qui compter. Philippiens 3 et le verset 20. Commençons au verset 20. Verset 20 et 21. « Nous, nous sommes citoyens des cieux ». Notre citoyenneté, elle est là. Notre vrai passeport, il est dans la salle du trône de Dieu. Notre citoyenneté, elle est là. On a été appelés de là. Le Christ va revenir sur la terre à partir de là, à partir du trône où il se trouve maintenant, dans cette salle magnifique qu'on ne peut pas imaginer. Il y a une certaine description dans la Bible, mais ça dépasse ce qu'on peut imaginer dans notre tête. Alors, notre citoyenneté, elle est là parce que nous sommes devenus enfants, fils et filles engendrés de Dieu. OK? D'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Lui, il est glorieux, il est plus éclatant et plus brillant que mille soleils. D'ailleurs, c'est lui qui a créé toutes les étoiles, les galaxies, notre soleil, et ainsi de suite. Alors, votre corps qui est physique, mortel, limité maintenant, peut-être malade même, un jour, si vous êtes ferme et fidèle, va devenir un corps glorieux, spirituel. Bien sûr, vous allez pouvoir reprendre votre forme physique, un corps physique, à l'occasion pour aider les êtres humains, pour leur parler directement et ainsi de suite. Mais vous allez avoir cette gloire à ce moment-là, semblable au corps de sa gloire. Et pour que ça arrive, il faut que maintenant, mon cœur soit semblable à son cœur. Que mon être intérieur, ce soit lui de plus. Que ce soit sa pensée en moi. Quand la Bible dit « amener toute pensée captive à Christ », il y a une explication que je vais vous donner qui nous aide aussi. C'est pas de dire « je pense à telle chose, puis là je vais en parler à Christ ». Bien sûr, si on a besoin d'aide, on peut demander, si on a des choix à faire ou des choses comme ça. Mais c'est pas de dire « si je pense à aller prendre une marche, bien je vais le dire au Christ, je peux le faire ». Mais c'est d'amener ma pensée au Christ pour que lui l'emplisse de sa pensée. Comprenez-vous l'idée? C'est que le Christ habite en moi et que je pense plus comme lui. Je demande à Christ, j'amène, si vous voulez, mon être intérieur et je dis au Christ, donne-moi de penser comme toi. Donne-moi d'agir comme toi tu agirais si tu étais à ma place. Donne-moi d'être de plus en plus capable de discerner les situations, les esprits autour de moi, d'être capable de prendre les bonnes décisions qui te plaisent. Puis en faisant ça, je vais te ressembler de plus en plus, Jésus, mon grand frère, et je vais me préparer à entrer dans la famille de Dieu. C'est ça, amener. Autrement dit, on amène notre pensée à Christ pour qu'il l'emplisse de sa pensée, pour qu'on devienne comme lui à ce niveau-là aussi. Et après, vous pourrez aller voir, on voit à partir du verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. » Ça, c'est des choses qu'on a à améliorer, à travailler. « Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. » Et même si les situations autour deviennent bouleversées, il faut se dire, Dieu est en train de permettre que ça arrive. Lui accomplit son grand but. Si moi, je suis fidèle, il va m'amener à bon terme. Je n'ai pas à me faire de soucis outre mesure, soit de la situation économique, soit de la situation mondiale. Ça m'attriste et je vois les souffrances. Et peut-être que nous aurons à en souffrir aussi jusqu'à un certain point. Mais c'est ce qui vient. C'est le grand plan de Dieu qui s'accomplit. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des remerciements. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il l'exprime d'une autre façon. Paul, il y a un langage qui n'est pas habituel, mais il y a des profondeurs extraordinaires. Il dit, si vous faites ça, si vous faites connaître vos besoins à Dieu, vous ne vous inquiétez pas, vous demandez à Dieu de vous aider, de ne pas vous inquiéter. Vous remettez votre sort entre ses mains, vous le remerciez de tout ce qu'il vous accorde, vous cherchez à lui obéir. Il dit, la paix de Dieu. Puis il dit ça, humainement, c'est pas comprenable. Mais la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension humaine, va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Là, vos pensées vont être captives à Christ, c'est-à-dire vous allez penser de plus en plus comme le Christ. Et pour ça, il donne la recette après, verset 8 et verset 9, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, regardez, il nous dit ici qu'est-ce qu'on doit garder dans notre pensée à tous les jours de notre vie. Et on doit se discipliner à ça. Et ça fait référence au sermon que je vous ai donné le premier jour, la fête des pains sans levain, comment contrôler notre pensée, la source de l'action. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors, ça, c'est de vivre selon les pains sans levain, c'est d'amener notre être à être captif de Christ. Il nous a rachetés à grand prix. On est ses esclaves. La Bible dit que nous sommes les esclaves de Christ, les rachetés. En grec, doulos, les serviteurs esclaves, mais heureux de l'être parce que c'est la voie du bonheur. Alors, si je me discipline à tous les jours de rejeter ce qui est mauvais dans ma pensée, mais que je mets ces choses-là bonnes, le royaume qui s'en vient, les services que je peux rendre, qu'est-ce que je peux améliorer dans ma vie, apprécier ce que j'ai, ce que Dieu donne à l'Église, aux autres, et ainsi de suite. Je ne suis plus là. Je ne suis plus dans ce monde-là, voyez-vous. Même si je dois encore vivre là, c'est qu'à l'intérieur de moi, j'ai une autre façon de penser, une autre façon de voir qui est tout à fait différente. Une autre façon aussi d'être ferme, c'est simplement de persévérer dans les luttes, de ne pas se décourager. Je vais vous dire une grande vérité qui ne vous fera pas tomber en bas de votre chaise, mais qui peut vous encourager. C'est que même après la fête des pains sans levain, il y a peut-être encore des graines de pain quelque part dans votre maison ou dans votre auto que vous n'avez pas réussi à enlever, que vous n'avez peut-être même pas vu physiquement quand vous avez fait la recherche. Mais spirituellement, c'est la même chose. Vous n'êtes pas encore parfait et moi non plus. Et c'est pour ça que chaque année, on revit le cycle des fêtes pour que ce soit un recommencement, un encouragement de la part de Dieu à persévérer dans nos luttes. Il y a des choses qui se règlent vite, d'autres un peu moins vite. Il faut faire attention humainement, par exemple, pour ne pas tarder, mais on ne peut pas réussir tout d'un coup. Hébreux 4, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 4. C'est un processus dans lequel on est actuellement. Hébreux chapitre 4, et on va lire le verset 14 à 16. Un grand encouragement. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, il était même le sacrifice lui-même, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons quoi? Fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Ça veut dire le Christ sait ce que c'est les faiblesses humaines. Il a vécu lui-même dans la chair humaine. Lui, il n'a pas péché, mais il a vu ce que c'était autour. Puis il a vu la nature humaine à son pire aussi. Il a vu les combats que les êtres humains ont amenés. Il a vu comment c'était difficile pour Pierre de contrôler son tempérament. Puis de toujours se répondre avec la question, ça finit de poser, et ce genre de choses-là, de se mettre les pieds dans les plats, et ainsi de suite. Il a vu les doutes de Thomas, il a vu la limitation de tous les êtres humains autour de lui, d'une façon. Puis il a vu aussi que les êtres humains ne sont pas forts par eux-mêmes. Ils l'ont tous abandonné quand il a été sur la croix. Il y a peut-être une personne qui ne l'a pas abandonné. Je vous laisse deviner qui. Sa mère. Parce qu'une mère est toujours là. Une mère est toujours là. Elle était là au pied de la croix quand c'est arrivé d'ailleurs. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Il comprend ce que vous vivez. Il comprend ce que nous vivons. Il ne veut pas qu'on reste de même. Il comprend qu'il faut qu'on change aussi. Et il sait que c'est par notre force. Par notre force, on ne peut rien, mais par sa force, on peut. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Et regardez le verset 16. Approchons-nous donc avec assurance. Je vous disais tantôt qu'on peut être ferme, qu'on peut avoir l'assurance d'être ferme. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Ça, c'est le trône du pardon, de la miséricorde. Puis on ne peut pas s'approcher efficacement du trône de la miséricorde de Dieu si nous ne nous repentons pas réellement. C'est comme si on n'était pas allé. C'est vrai? Si je vais demander pardon à Dieu, mais que je n'ai pas l'intention de changer, ou je ne fais pas des gestes pour changer, pensez-vous que Dieu va nous pardonner? Si j'ai des choses à modifier dans ma vie et que je ne les modifie pas, pensez-vous que Dieu va me pardonner? Même entendre mes prières? Même la Bible dit aux maris, soyez doux avec vos épouses, prenez-en soin, soyez respectueux envers elles comme devant hériter le royaume, la même chose que vous. Sinon, vos prières ne seront pas entendues dans la salle du trône. Il faut que le changement soit souhaité, réel, qui vienne du cœur. Autrement, ça ne va pas plus loin. Alors, il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, si on se repent vraiment, et c'est notre porte à nous, afin d'obtenir quoi? Miséricorde. C'est formidable. On aime ça, hein? Quand on fait quelque chose à quelqu'un, puis la personne nous excuse ou nous pardonne, même sur le plan humain. Alors, sur le plan spirituel, c'est encore beaucoup plus. Et on peut s'approcher pour obtenir miséricorde et trouver grâce. Et regardez, ça n'arrête pas là. Pour être secouru dans nos besoins. Parce que quand je reconnais une faute devant le trône de Dieu, j'y demande pardon, j'y dis en même temps, écoute, si j'ai manqué là, c'est parce que j'ai une faiblesse là-dessus. Là. Aide-moi, il faut que je règle ça. Puis là, je peux me mettre des échéances, puis me faire un plan pour éliminer cette faute-là, puis demander l'aide de Dieu régulièrement, puis là, jeûner là-dessus s'il faut, régulièrement, et ainsi de suite. Là, Dieu voit qu'on veut être ferme et qu'on compte sur lui. Soyez pas inquiète. La réponse va venir. Il va vous affermir. En son temps, à sa façon, mais ça va commencer tout de suite. Écoutez, c'est maintenant qu'on doit s'affermir. Avant les temps difficiles. On sait que les temps devant nous sont plus difficiles que ceux actuels et que ceux d'avant. Lorsque les bouleversements seront plus grands et plus nombreux, c'est là que il devra y avoir un petit peuple courageux, connaissant leur Dieu, capable d'accomplir des exploits, pas de leur force, mais par la force de Dieu. Parce qu'ils sauront. Pourquoi ils vont savoir? Parce qu'ils ont fait l'expérience avec Dieu tellement de fois avant, au cours de leur vie. Ils auront vu la main de Dieu, ils auront vu ses réponses lorsqu'ils se repentaient, lorsqu'ils se sont repentis, et ainsi de suite. On a l'exemple de Job. Je n'irai pas parce que je veux couvrir certaines choses. Vous pourrez aller voir dans Job vous-même. Mais je veux vous faire réaliser une chose. Dès le début, vous irez voir dans Job 2, verset 3. Avant que Job soit éprouvé, avant que les malheurs s'abattent sur lui, OK? Dieu dit que Job demeure ferme dans son intégrité. Vous y penserez. Avant même que Dieu permette à Satan de le toucher, dès le début, puis ça a été loin, Dieu dit, je connais Job et je sais qu'il est ferme dans son intégrité. Et si vous remarquez, tout au long de l'histoire de Job, Job ne comprenait pas les malheurs qui y arrivaient et les difficultés qu'il y avait. Il a perdu ses enfants, il a perdu sa fortune, il a perdu sa santé. Il y a juste sa femme qui est restée, qui le maganait, qui était opposée à lui, qui disait « Maudit ton Dieu et meurs ». Ça, c'est l'encouragement qu'il y avait dans la maison. Alors, c'était sa situation. Il a vécu tout ça avant que Dieu l'en délivre. Mais tout au long de son histoire, Job n'a jamais mis en doute Dieu ni sa bonté. Avez-vous remarqué? Et il n'a jamais, Job n'a jamais dit « Bon, ben si c'est de même, moi, je vais aller prendre un coup à soir. » On va toujours bien s'encourager un peu, de quelque façon. Ou Job n'a jamais dit « Je vais faire d'autres fautes pour me faire plaisir ou pour affronter ça. » Pas du tout. Job n'a pas retourné dans la désobéissance au commandement de Dieu. Il ne comprenait pas. Ça, c'était un problème pour lui. Mais il a passé à travers toute cette souffrance qui a duré longtemps. Il a passé à travers toute cette souffrance-là, puis il n'a jamais remis Dieu en question, ni son existence, ni sa bonté, ni ses lois. Il n'a pas dit « Je vais me mettre à transgresser parce que Dieu m'a abandonné, m'a l'abandonné moi aussi. » Des fois, certaines personnes réagissent comme ça humainement. OK? Non, il a tenu ferme. Mais Dieu le savait depuis le début. Avant que les problèmes commencent, Dieu dit à Satan, « Job demeure ferme dans son intégrité. » Il était déjà un serviteur de Dieu qui avait une fermeté. Alors, quand les difficultés sont arrivées, ou quand les bouleversements sont arrivés, comment Job a réagi? Il est resté ferme. Il l'était. OK? Il a continué dans le même chose. Il n'a pas remis en question. Il n'a pas laissé entrer dans sa pensée des idées de doute. S'il y a des idées de doute qui sont venues dans la pensée de Job, il ne les a pas gardées concernant Dieu. Et s'il est venu des idées dans sa tête d'aller oublier ça au bord du coin, il n'a pas gardé l'idée non plus. Parce que la Bible dit qu'il n'a pas transgressé à partir du moment où il y a eu des problèmes. L'idée a pu venir, mais ce n'est pas un péché que l'idée vienne. C'est de la garder qui est un péché. Il faut l'éliminer tout de suite, comme j'ai expliqué dans le sermon l'autre jour. Alors, quand on voit Job de cette façon-là, avec une petite déclaration de Dieu, on voit que Job a tenu ferme, qu'il n'a jamais douté de Dieu. Et plus on s'applique à pratiquer chaque jour la justice de Dieu, en choisissant nos pensées, en se nourrissant de la Bible, en parlant à Dieu, en appliquant ça quand au fil et au gré des événements de chaque journée, à ce moment-là, on devient plus solide. Il y a des petites victoires qui s'accumulent. Jour après jour, on est en marche jusqu'à la grande victoire finale. Et plus on fait ça, plus on a de l'assurance. Mais oui, parce qu'on sait que si on manque notre coup un peu en cours de route, Dieu va nous pardonner, on est en train de changer. Puis ça, ça lui plaît. Un autre moyen maintenant, c'est d'être attentif à ce que Dieu fait, d'être attentif à sa présence, pour réaliser que de plus en plus, quand je fais ma part, je peux être certain que Dieu va être fidèle, non, que Dieu étant fidèle, va agir en son temps, à sa façon. Mais plus je fais cette expérience-là avec lui, de m'en remettre à lui, d'être attentif à ce qu'il fait, à sa présence, plus je vais percevoir sa présence à ce moment-là. Allez à Exode chapitre 13, s'il vous plaît. Exode chapitre 13. J'ai parlé avec un membre de l'Église de la région de l'Ontario cette semaine, et ça m'a vraiment touché, ça allait un peu avec ce que je vous dis maintenant. C'est que cet homme-là m'a dit « Monsieur Brochu, depuis un certain nombre de mois, je vis des expériences superbes avec Dieu. Je découvre Dieu encore plus qu'auparavant. » Il dit, j'ai commencé à demander à Dieu d'ouvrir mes yeux, de me montrer sa présence dans les petites choses de ma vie. Puis j'ai insisté. Puis il dit, Dieu m'a répondu. Il dit, j'ai réalisé à un moment donné dans plein de choses que c'était lui qui était là à côté, qui faisait que telle chose n'arrivait pas ou arrivait. Ça ne veut pas dire qu'automatiquement, quand on souhaite quelque chose, ça arrive à l'instant, c'est pas ça. Mais s'habituer à voir ce que Dieu fait, que Dieu est un Dieu qui agit. Et si on se met entre ses mains, qu'on demande de faire sa volonté, il ouvre des portes, on en a parlé, qu'on ne s'attend même pas à certains moments donnés, où il nous protège de certaines choses vraiment spéciales. Voyons l'exemple d'Israël ancien ici, Exode chapitre 13, et voyons le verset 20 et 21. Ici, c'est Israël qui quitte l'Égypte, qui s'en vont vers la mer Rouge. Ils partirent de Succo et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuit pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent toute la nuit. Ça devait être vraiment impressionnant. Là, vous la voyez, la présence de Dieu. Là. On la voit littéralement. Là. Ils l'ont vu. C'était un peuple physique. Dieu leur a montré une présence physique aussi pour les encourager. La colonne de nuit ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu durant la nuit. Et regardez pourquoi il le faisait, afin qu'il marche jour et nuit. Afin qu'il marche jour et nuit. Chapitre 14, verset 15, Exode. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi c'est écrit? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Et qu'il marche. Ça veut dire qu'une fois qu'on est appelé, qu'on réalise le plan de Dieu, qu'on réalise qu'on est des rachetés, il faut continuer d'avancer, quelles que soient les circonstances. Même si nous ne sommes pas encore parfaits, ne pas se décourager, mais continuer d'avancer, compter sur Dieu, lui demander son aide de plus en plus, lui demander aussi de manifester sa présence, de nous encourager de cette façon-là. Autrement dit, quand Dieu dit « marchez », c'est, il faut avancer, il faut garder le rythme, il ne faut pas faire du surplace, ni commencer à regarder en arrière. Ça fait partie de la même chose. Ça fait partie exactement de la même chose. Et ça, c'est Israël physique. Mais nous, Israël spirituel, écoutez, la colonne de feu puis la colonne de nuée, on ne la voit pas. Mais on a encore plus. Parce que cette même colonne de feu et de nuée, elle est en nous. Parce qu'on a reçu l'Esprit du Christ, l'Esprit de Dieu, après notre baptême, lorsque le ministre nous a imposé les mains. On a été imprégné par le dépôt du Saint-Esprit. Comprenez-vous? Alors, cette même grande puissance qui a créé l'univers, qui a sauvé l'univers en offrant sa vie, elle est avec ceux qui l'appellent actuellement pour les aider à faire le chemin vers le baptême et vers la famille de Dieu. Et elle est dans ceux qui appartiennent à Dieu et qui continuent à s'efforcer de marcher selon ses voies. Mais pour ça, il faut rester, comme le Christ a mentionné le soir de la Pâque, il faut rester attaché au sceptre. Il faut rester attaché au pied de la vigne pour que la sève passe du Christ en nous, pour que les eaux vives, le Saint-Esprit, continue de nous animer puis de nous aider à comprendre, à avancer, à être encouragés, à vaincre, à avoir la force nécessaire. Notre foi devient plus ferme dans la mesure où on s'applique à marcher comme le Christ a marché. C'est ça? Et notre foi devient plus ferme dans la mesure où on s'applique à marcher par le Christ et non pas à compter seulement sur nos propres forces. Et notre foi devient plus ferme à mesure qu'on s'applique à marcher pour le chef de l'armée de l'Éternel, pour le Christ, le chef de l'Église. Ça, c'est nos ordres de marche. Placer notre confiance en Dieu. On sait que ses promesses sont irrévocables. C'est Dieu qui nous affermit, c'est lui qui nous donne toutes choses. Toutes choses. Vous pourrez aller voir vous-même dans Romains, chapitre 16, versets 25 à 27. C'est la conclusion de la longue lettre que Paul envoie aux Romains. Et à la fin, vous allez voir, il parle encore de cette fermeté. Il prie Dieu de donner à ses enfants la fermeté dont ils ont besoin. Alors, avec la fête des pains sans levain, nous tournons nos cœurs puis nos pensées vers Dieu encore plus intensément durant cette période des premières fêtes de Dieu, dans son cycle de fêtes annuelles. Et je sais, vous y avez goûté cette année, moi aussi, et on a vécu des choses spéciales encore. Et ce n'est qu'un début. C'est une étape encore. Mais on a tourné nos pensées, nos cœurs vers le but, vers les petites victoires qu'on a besoin de faire encore, puis vers la grande victoire totale, en éliminant tout ce qui peut nous déranger, tout ce qui peut nous ralentir, tout ce qui peut nous détourner ou nous empêcher d'arriver au but, ou nous distraire juste assez pour qu'on ne soit pas de tout cœur avec Dieu, pour qu'on ait d'autres dieux qui nous intéressent, qui grugent notre temps et nos énergies, alors qu'on pourrait rééquilibrer notre programme de vie pour que nos vraies priorités soient Dieu, le royaume, notre transformation actuelle et notre transformation totale à venir. Ce n'est pas pour rien que la Bible mentionne à qui appartient le royaume. Il dit, le royaume appartient aux violents. Ça fait drôle lorsqu'on voit ça dans certaines versions. Le royaume appartient aux violents. Ce n'est pas dans le sens de la violence qu'on voit dans la méchanceté, non. Le vrai sens du mot, c'est à ceux qui sont fermes, à ceux qui sont zélés, à ceux qui sont déterminés. Je veux y être et je vais y être par la force de Dieu et je vais faire ce qu'il faut. Je vais faire ma part. Je peux être assuré que si je fais ma part, Dieu va faire la sienne. Ésaïe chapitre 55, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 55 en terminant. Ésaïe chapitre 55. Il faut avoir les yeux sur le chef de l'armée de l'Éternel, sur le chef suprême de l'Église, et garder nos yeux sur le but qui nous inspire. Comme je disais tantôt, lorsqu'on est adolescent et qu'on veut se bâtir une carrière, on met nos yeux sur ce but-là, on fait tout ce qu'il faut pour y arriver, on fait les sacrifices qu'il faut, on y tient, ça nous tient à cœur, on fait les efforts nécessaires dans ce cas-là, et si on persévère, à ce moment-là, on y arrive. C'est la même chose au plan spirituel, sauf qu'on a l'aide de Dieu pour y arriver. Et c'est une promesse infaillible. Ésaïe, chapitre 55, on va commencer au verset 6. Et ça s'applique à nous, les appelés maintenant. La Bible a été écrite pour ceux qui sont appelés à mesure qu'ils sont appelés, je dirais. Oui, parce que ceux qui ne sont pas appelés peuvent lire les mêmes textes et ne voient pas du tout les mêmes choses. Parce que Dieu, dans sa bonté, n'a pas encore ouvert leur esprit. Mais Dieu étant juste, un peu plus tard, après le retour de Christ qui est imminent, il va ouvrir leur esprit. Et quand il va ramener à la vie tous les gens qui sont morts au cours de l'histoire, il va leur donner de comprendre, il va ouvrir leur esprit. OK? À nous, c'est donné maintenant. Mais en même temps, on a la responsabilité que nous, on doit vaincre maintenant dans une société adverse. Et on doit le chercher de tout notre cœur maintenant pour être prêt à ce moment-là. Alors ça ici, donc je reviens à ça, la Bible a été écrite pour les appeler au moment où ils sont appelés. Alors ces mêmes livres-là, quand le Christ va être revenu et après le mille ans, pour ceux qui seront ressuscités, les mêmes livres de la Bible vont être ouverts. C'est écrit dans l'Apocalypse pour ceux qui vont être amenés à la vie et ceux qui vont être appelés. Pourquoi? Parce qu'ils vont pouvoir les comprendre. OK? Donc ça s'applique à nous maintenant aujourd'hui, surtout nous qui sommes parvenus à la fin des temps ou à la fin de ce monde actuel, qui sera remplacé par un monde beaucoup meilleur lorsque Christ sera ici. Verset 6. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. » À qui ça s'adresse? À nous. C'est la fête des pains sans levain. C'est le fait, lorsqu'on est baptisé, qu'on doit prendre la Pâque et qu'on doit garder l'allure d'avancer, marcher, pendant qu'il est encore temps, pendant que vous pouvez vous préparer. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. » Parce que bientôt, il y aura famine de la parole aussi. Bientôt, je ne sais pas à quel moment donné, mais l'Église ne pourra plus annoncer l'Évangile comme elle le fait. Ce sera une autre étape. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. À qui Dieu répond? Dieu répond à ceux qui l'invoquent avec un cœur désireux de faire sa volonté. Alors, c'est à nous que ça s'adresse, à ceux qui veulent lui obéir, l'appartenir. Vain. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. C'est le temps maintenant, là. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité abandonne quoi? Ses pensées. Parce que tout commence dans la pensée, comme je vous ai mentionné. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Et ça s'applique à certains qui ont ralenti la marche au cours de l'année. Ou qui ont ralenti la marche peut-être au cours des années passées, qui ne sont pas là encore, qui ont quitté pour un certain temps, qui vont revenir. On prie pour eux. Alors, ça s'applique ici. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Dieu tient pas rigueur. Dieu est prêt à pardonner lorsqu'on se repent. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et regardez, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et c'est ces pensées-là qu'on a besoin de voir remplacer nos pensées dans notre esprit. Et ce faisant, nos pensées deviennent captives au Christ. On pense comme lui, on pense comme Dieu. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas. Sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il donne une analogie ici. Il dit, quand j'envoie la pluie, là, ça fait croître les légumes, les productions alimentaires et tout ça, et les gens peuvent manger à partir de là. Ça accomplit les desseins de Dieu. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Voyez-vous l'importance pour nous de nous nourrir chaque jour de la parole écrite et de nous nourrir chaque jour en parlant à Dieu, puis lui demandant de venir en nous encore plus intensément, de faire sentir sa grande présence et de nous aider de le voir, puis d'avoir l'esprit ouvert et le cœur ouvert à nous soumettre à lui. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et regardez le reste, moi j'ai mis une petite ligne bleue à côté, parce que lorsqu'il y a une description du royaume, je mets une petite ligne bleue dans ma Bible, ou quand c'est une fête, je mets du bleu. Alors ça c'est le plan de Dieu, c'est ses fêtes, c'est son royaume. Alors versets 12 et 13, c'est le royaume. Oui, vous sortirez avec joie. Il parle maintenant après le retour de Christ. Et vous serez conduits en paix. Et regardez, les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Il parle de ses appelés qui sont fidèles ici, OK? Qui cherchent Dieu. Cherchez-le pendant qu'il se trouve. Et si vous vous êtes éloigné, revenez. Dieu ne se lasse pas de pardonner, mais recommencez la bataille et dirigez-vous, dirigez vos pas dans les sentiers de Dieu. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine, s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce, croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Il parle du monde à venir ici. L'établissement du royaume de Dieu sur la face de la terre. Alors, écoutez, ces fêtes du printemps qu'on vient de vivre et qui s'achèvent maintenant très rapidement, considérez-les comme un recommencement. Considérez-les comme un recommencement. Je prends un nouveau départ. Il y a des choses que je dois encore améliorer. C'est un nouveau départ. Avec l'aide de Dieu, je vais y arriver. Dieu, montre-moi encore les choses que j'ai à changer et donne-moi l'encouragement que j'ai besoin avec aussi. Nouveau départ, recommencement. Dieu, aide-moi. J'ai réussi un certain nombre de choses, mais aide-moi à aller plus loin encore. Parce que je dois croire dans la grâce, dans la connaissance, jusqu'au retour du Christ. Donne-moi, Père, d'avoir une ardeur puis une joie nouvelle. Je choisis d'être ferme dans les voies de Dieu, et Dieu me rend ferme en me dirigeant vers la vie éternelle. Et je termine avec la petite phrase de Paul qui est tellement encourageante quand il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ».